Amis auditeurs de M comme musique, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour Gisèle. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous parler d'un trompettiste qui s'appelle Georges Jouvin. Donc, Georges Francis Raymond Jouvin est né le 15 juin 1923 à Rennes, en Ille-et-Vilaine, et est mort le 24 octobre 2016 à Saint-Cloud. C'était un trompettiste-compositeur français. Il enregistre du milieu des années 1950 jusqu'au début des années 1980 des centaines de disques, de reprises de tubes pour la maison de disques Pathé Marconi. Né dans la famille de musiciens, Georges Jouvin fait ses études musicales au conservatoire de Rennes, puis à celui de Paris. Son répertoire très varié, musique classique, jazz, musique populaire, et sa virtuosité le feront surnommer « l'homme à la trompette d'or ». En novembre 1950, il enregistre à Paris dans un orchestre conduit par Maurice Mouflard avec Charlie Barker en guest star. Je vous invite à écouter un de ses premiers titres qui s'intitule « Le jour où la pluie viendra ». Il enregistre ses premiers disques en 1956 pour la maison de disques Pathé Marconi. Son répertoire est constitué de reprises des tubes en vogue, mais comporte aussi parfois des compositions personnelles. Son épouse de l'époque, Dominique, l'accompagne parfois au chant. Elle figure sur un nombre important de pochettes de ses disques. Les succès discographiques du trompettiste sont notables de la fin des années 1950 jusqu'au milieu des années 1970. Il sort trimestriellement une quarantaine de 45 tours en 1967 et régulièrement des albums 33 tours jusqu'à l'aube des années 80 dans sa collection « Hits Jouvin ». Je vous invite à écouter un deuxième succès qui s'intitule « L'histoire d'un amour ». Peu invité sur les plateaux de télévision de l'époque, c'est grâce à ses reprises de tubes qu'il deviendra un instrumentiste populaire en France et dans le reste de l'Europe, notamment en Espagne et en Allemagne. Il devient administrateur, puis vice-président de la SACEM, de la SDRM et président du syndicat des chefs d'orchestre de variété. Georges Jouvin est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 13 juillet 1994. Pour clore cette émission, je vous invite à écouter un titre qui s'intitule « Only You » et je vous dis à très bientôt.
Chers amis fidèles à Radio Galaxie, bonjour. Bonjour Gisèle. M comme musique, à chaque semaine avec vous, avec votre radio régionale Radio Galaxie. Qui est là donc pour vous faire passer avec des bons souvenirs, des bons moments, en écoutant de belles voix et de belles chansons, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite du grand ténor Enrico Caruso. Mais avant de poursuivre notre histoire, je vous invite à écouter Caruso qui nous interprète Cuore Ingrato, surnommé Catari. Je vous rappelle que Enrico Caruso, né dans une famille très pauvre, dès son enfance, il doit travailler dans une fonderie, puis dans un atelier de tissus et bien d'autres métiers. En même temps, il apprend le chant et se produit sur scène où il chante des petits rôles dans des œuvres lyriques. En 1991, alors qu'il chantait dans une gloriette près du port, le jeune baryton Eduardo Massino l'entendit et insista pour que Caruso rencontre son professeur de chant, Guglielmo Vergine. Pour payer ses cours, Caruso signe un contrat sur lequel il paiera à vivre à Vergine 25% de ses gains pendant 5 ans du véritable chant. La clause contractuelle, 5 ans de véritable chant, revint en terre. Caruso, Virginie, voulait dire que par ces 5 ans, non par les 5 années civiles, mais la somme des jours où il chantait sur scène. Cette clause signifiait que Caruso était redevable à Vergine quasiment pour le reste de ses jours. La cause fut portée en cour et le jugement tomba en faveur de Caruso. L'affaire fut conclue lorsque Caruso paya 20 000 francs à Vergine pour mettre fin au contrat. Écoutez notre ténor nous interpréter la force del destino. En 1895, Vergine sentit que Caruso était prêt à faire ses débuts. Son premier opéra fut l'Amico Francesco de Morelli. Puis, il chante les premiers rôles dans Cavalleria Rusticana, Faust, Rigoletto et La Traviata. En 1897, la vie de Caruso prit un tour nouveau. La passion naquit entre Caruso et Ada Giacchetti Botti. Leur amour grandit pendant les années suivantes et Giacchetti, mariée et mère d'un enfant, quitta son mari pour devenir la femme non légitime de Caruso et la mère de ses deux premiers garçons, Rodolphe et Enrico. C'est un rappel que je vous fais. Un célèbre chanteur d'opéra le remarque puis, en 1897, il est engagé par Giacomo Puccini pour chanter le rôle principal de son opéra, La Traviata. Il interprète ensuite les rôles principaux des œuvres du répertoire classique et connaît un grand succès. En 1902, il était l'un des premiers chanteurs à enregistrer sa voix sur un disque phonographique. Sa carrière devint internationale. Enrico Caruso chante notamment à la Scala de Milano, à Londres, à New York, à San Francisco, et il effectue une tournée en Amérique du Sud dans les années 1910. Je vous invite à écouter notre ténor qui nous interprète Céleste Aïda. Le 11 avril 1902, il y a presque 118 ans, le soleil brilla dans le soleil milanais, dans le ciel milanais. Après 2 heures et 10 chansons, le ténor napolitain Enrico Caruso quittait une chambre d'hôtel avec un chèque de 100 livres, équivalent à 10 000 dollars aujourd'hui. Le monde de la musique ne serait plus jamais le même. Les premiers enregistrements du chanteur furent diffusés jusqu'avant qu'il fasse ses débuts au Metropolitan Opera et l'on a vendu plus d'un million d'exemplaires. Ce 11 avril bouleversa l'industrie de l'enregistrement sur disque. Les réalisateurs de ces enregistrements étaient les talentueux Fred Gesberg de la compagnie Gramophone de Londres. Il avait découvert Caruso quelques jours auparavant à la Scala, dans Germania, produit par Alberto Franchetti. Enregistré ces 10 chansons, la réponse lui parvint par télégramme. Honoraire exorbitant. Oubliez cet enregistrement, il dit. Gesberg froissa les télégrammes et procéda malgré tout à l'enregistrement. La suite, comme on dit, fait partie de l'histoire. Gesberg déclara que les enregistrements de Caruso avaient mis au monde le gramophone. La voix d'Enrico Caruso possédait un son d'une grande richesse à laquelle on ne s'attendait pas, surtout venant des bruyants gramophones de l'époque. Des enregistrements obséquents révélèrent encore mieux les timbres d'or de sa voix. Il est intéressant de noter que la voix de Caruso n'a pas toujours donné le son puissant, naturel et lyrique que les amateurs le connaissent. Ce son est le fruit des plusieurs années du dur labeur. Écoutons notre ténor nous interpréter Santa Lucia. Dans les années 1890, la voix de Caruso était jugée légère et lyrique, avec une tendance à se briser sous les hautes notes. Le chef d'orchestre Vincenzo Lombardi l'aida à remédier à ses problèmes et lui enseigna comment chanter Arturo dalla Puritani en rôle de la tessiture était stratosphérique, de haut, ré et ré bémol, et enfin au-dessus du contre-ut. Dans une épreuve avec Kay, son premier biographe, Caruso dit « Il ne s'agissait pas exactement du même genre d'études que j'avais jadis connues. C'était des conseils et des exemples qui me donnèrent la conviction qu'après tout, je pouvais apprendre à chanter Puritani avec toutes les notes hautes. » Quelle est la raison du succès d'Enrico Caruso? Une simple poitrine, une grande bouche, 90% de mémoire, 10% d'intelligence, beaucoup de dur labeur et quelque chose dans le cœur. Le docteur William Lloyd, spécialiste londonien de la gorge pour Caruso, rapporte que la longueur de l'organe vocal du chanteur, c'est-à-dire la distance entre ses dents frontales et les cordes vocales, est du moins un demi-pouce plus longue que celle d'autres ténors, et que la longueur de ses cordes vocales était d'un huitième de pouce de plus que la norme. La capacité pulmonaire de Caruso était étonnante. Il pouvait soutenir une note pendant au moins 40 secondes. Le docteur Lloyd disait qu'en inspirant profondément, Caruso pouvait donner à sa poitrine l'expansion nécessaire pour pousser un piano de quelques pouces sur un tapis. Le 3 décembre 1920, en pan de décor, heurta Caruso sur le côté gauche, juste au bas des reins, durant la dernière acte de Samson et Dalila au Metropolitan Opera. Les complications et les infections qui suivirent privèrent le monde de son plus grand ténor. Lorsqu'il mourut le 2 août 1921 à l'âge de 48 ans, Caruso était au fait de sa carrière, c'était sa fin. Il régnait comme ténor principal au Met et ses enregistrements étaient les plus vendus. Il laissa le souvenir d'un homme chaleureux, heureux, généreux par ses amis. Des générations de chanteurs et de ténors ont été inspirés par les apparitions sur scène de Caruso, un plus grand être de ses captivités par sa voix d'or, musicale et théâtrale à la fois, et par le testament qui constitue ses 250 enregistrements. Et c'est avec cette chanson « Et Lucem alle stelle » que nous allons nous quitter pour aujourd'hui, chers amis. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.